us. Whatever God you believe in, we come from the same one. Strip away the fear, underneath it's all the same love.
Présence, yeah. Nous voilà.
Les familles homoparentales sont une réalité. Et on voit souvent ces familles homoparentales qui ont encore cette difficulté à pouvoir simplement dire ce qu'elles vivent. Il y a souvent beaucoup d'amour, beaucoup d'affection. Et je ne vois pas pourquoi il y aurait encore des discriminations en la matière.
Nous non plus, on ne voit pas pourquoi.
She keeps me warm. She keeps me warm. She keeps me warm. She keeps me warm.
Protégeons notre histoire dont nous sommes si fiers. Et alors viens, allons leur prouver que deux hommes qui s'aiment peuvent être pères. Peuvent être pères. Peuvent être pères.
Douleur du quartier, la tablette qui se fait frapper, la tafiole, le type pété, mon petit nom s'est enculé.
Toi ton rêve, de leur montrer qui tu es, et ton rêve de ne pas pouvoir exister. Dans tes rêves, tu ne veux qu'être aimé.
C'est un peu de générique, parce que ma foi, les chanteurs ont sorti les
machettes. Brian Williamson, son péché aimait d'autres hommes. Caribéen mâle au tropique, il faudra fuir ta Jamaïque. Fuir, fuir, ta Jamaïque, fuir, fuir, ta Jamaïque.
Et vous êtes bien sur Radio G, Angers 101.5 FM, et c'est l'émission Quasar on the Air. Ce soir, je suis seule, ce soir, avec mes infos, avec la suite des aventures de Megan Rapinoe, dont vous avez eu le premier épisode la dernière fois, avec aussi quelques précisions sur Quasar, quelques news, et évidemment une chanson, celle de Oshi. Et je vous parlerai un petit peu de cette chanteuse et de ce qu'elle a dit à propos de sa chanson. Amour, censure. Alors vous allez vous dire, mais pourquoi est-elle seule ce soir? Eh bien parce que les hommes qui d'habitude sont avec moi ont soit une vie, soit ne peuvent pas venir pour cause de gastro et autres problèmes, n'est-ce pas, de ces de l'hiver habituel. Alors voilà, moi qui suis résistante, je suis là pour vous. On va commencer par quelques news. Une news triste. Pour commencer, malheureusement, Julie Berman, la police canadienne a retrouvé Julie Berman dimanche 22 décembre dans une résidence de Brunswick Avenue et de Hobart Street à Toronto, souffrant de graves blessures à la tête. D'après The Globe and Mail, le journal local, elle a ensuite été transportée à un hôpital où elle a été déclarée morte quelques heures plus tard. Les forces de l'ordre ont arrêté un homme de 29 ans qui vivait dans l'appartement où cette femme de 51 ans a été retrouvée. Julie Berman, vous la connaissez sans doute pas, c'était une super militante contre la transphobie. C'était une fervente militante, même pour les droits des personnes trans. Elle luttait contre les violences anti-trans à Toronto en hausse depuis des années. L'activiste avait notamment prononcé un discours sur la transphobie lors du Trans Day of Remembrance le 20 novembre 2017, dans lequel elle avait parlé d'une de ses amies tuée pour sa transidentité. C'est terrible. La chose qu'elle combattait lui est arrivée, a déclaré au Globe and Mail Davina Hayder, une amie de la victime et membre du 519, une association LGBT dans laquelle Julie Berman était extrêmement active. Julie Berman était coiffeuse et a participé pendant près de 3 décennies à des événements communautaires au 519. Elle avait du mal à survivre, comme nous toutes, explique Davina Hayder. C'est très malheureux, très triste. Pride Toronto a publié un hommage à la mémoire de Julie Berman vendredi 27 décembre. En mémoire de Julie Berman, une femme trans, fière et défendeuse infatigable qui s'est battue pour sensibiliser à l'augmentation des taux de violence anti-trans dans notre ville. Le cœur lourd, nous nous souviendrons de Julie. Cet incident alarmant devrait rappeler à toutes et tous les taux élevés de violence que subit la communauté trans. Pas qu'à Toronto, malheureusement. Enfin, malheureusement, évidemment. Donc voilà, Julie Berman, 1968-2019, In Loving Memory. Suite, tournons la page, Schrupp. À Madagascar, une loi contre les violences faites aux femmes soupçonnée d'être la porte ouverte au mariage pour tous. Hommes politiques et églises soupçonnent ce texte de préparer le terrain à une reconnaissance du mariage des couples de même sexe. Le vote donc d'une loi réprimant les violences faites aux femmes a suscité de vifs remous à Madagascar, parce qu'ils croient franchement que ça va mener à une reconnaissance du mariage des couples de même sexe. Bien sûr, lutter contre la violence faite aux femmes amène à la reconnaissance du mariage des couples de même sexe. À l'initiative du chef d'État, Andry Rajoelina, l'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté le 13 décembre dernier un projet de loi sur, je cite, « la prévention, la poursuite, la répression des actes de violence basés sur le genre ». C'est une grande victoire pour les droits des femmes et des enfants victimes. S'est aussitôt réjouie la première dame, Miali Rajoelina, à la pointe du combat. Selon la présidence, un tiers des femmes malgaches sont victimes de violences physiques ou psychologiques. Mais à peine voté, le texte, qui renforce notamment les peines de prison infligées aux auteurs de violences, a fait l'objet de vives critiques en raison du libellé de certains articles accusés d'ouvrir la voie au mariage pour tous. Dans la très conservatrice île de Madagascar, la loi ne réprime pas les relations homosexuelles, mais interdit aux personnes de même sexe de contracter un mariage ou d'adopter un enfant. La nouvelle loi sème la zizanie au pays, a déploré auprès de l'AFP un député de l'opposition, Fidel Razzara Pierre. L'élu, repris par de nombreux internautes, dénonce notamment la rédaction de l'article 6 de la loi qui punit de 2 à 5 ans de prison tout acte de pénétration sexuelle commis sur le conjoint ou sur la personne engagée dans une union. Pourquoi a-t-on utilisé le mot de conjoint au masculin et non pas la conjointe au féminin? S'est interrogé M. Razzara Pierre. Cette loi reconnaît-elle déjà la possibilité de n'avoir que des conjoints dans une union? Ils sont rusés. Un flou a été expressément instauré pour avancer d'un petit pas dans ce sens, a-t-il accusé. Dès le débat du texte devant le Parlement, certains élus s'étaient offusqués de ces mots et avaient refusé de le voter. Très influentes à Madagascar, les églises protestantes ont joint leur voix aux critiques. L'Église se doit d'alerter face à toute menace qui pèse sur la nation, à Tony, je n'ai pas Tony, désolé, un de ses responsables, pasteur Irako Amni Andriyama Azoaza, exhortant le gouvernement à ne pas favoriser le mariage pour tous. Pour éviter toute confusion, le gouvernement avait pris la précaution d'inscrire dans la loi que l'union s'entend comme le lien entre un homme et une femme. Mais face à la polémique, il a dû répéter la semaine dernière que son texte ne favorise pas les unions ou mariages des personnes de même sexe et condamner ceux qui entretiennent la confusion pour des raisons politiques. La loi doit être validée par la Cour constitutionnelle avant d'entrer en vigueur. Où se cachent les lois et le lobby, le fameux lobby gay, n'est-ce pas ? Un peu plus léger. Trois questions à Barbara Petit et Laure Valentin. Qui sont-elles ? Eh bien, ce sont les créatrices de ton album Arc-en-Ciel. C'est quoi ? Ton album Arc-en-Ciel, exactement. Et c'est le premier livre de naissance pour famille homoparentale disponible sur le marché éditorial français. Mixte, non genré, conçu par des LGBT+, pour des LGBT+, ton album Arc-en-Ciel est un livre illustré qui s'adresse à toutes les configurations de famille homoparentale, coparentalité, couple gay, couple lesbien. Ces 6 chapitres abordent des aspects spécifiques à l'homoparentalité. PMA, famille choisie, arbre généalogique ouvert, ou peu présent dans les livres de naissance classiques, la rencontre, la construction du projet parental. En quoi ton album Arc-en-Ciel diffère-t-il d'un album de naissance classique ? Barbara Petit et Laure Valentin ont répondu conjointement à toutes les questions. Ce livre est né d'un manque. Tout a commencé lorsque nous sommes partis en quête d'un livre de naissance pour un couple d'amis qui allait avoir un enfant. Malheureusement, ou heureusement, après de nombreuses recherches en librairie et sur Internet, nous n'en avons trouvé qu'un seul au Québec. Le temps de le recevoir, le bébé était né depuis 3 semaines. Dépité, nous avons décidé de combler cette lacune, source d'inégalité, et de créer nous-mêmes le livre dont nous avions besoin. Le monde de l'édition souffre doucement aux représentations de l'homoparentalité. Nous avons voulu ajouter cette pierre à l'édifice. Ton album Arc-en-Ciel est un album ouvert. Ici, pas besoin de rayer les mentions inutiles. L'album s'adapte aux multiples configurations possibles des familles. Chacun peut y inscrire les particularités de sa parentalité. Couple lesbien, couple gay, coparentalité, et y raconter son histoire. Nous avons accordé une place importante à la libre expression et certains chapitres abordent des aspects spécifiques à l'homoparentalité. La PMA, la famille choisie, donc l'arbre généalogique ouvert, à plusieurs branches non restreint à la famille biologique, ou peu présent dans les albums hétéronormés, comme la rencontre, donc la construction du projet parental. Nous tenions également à sortir des stéréotypes de genre. L'album est mixte. Les personnages sont non sexués, les couleurs non genrées et l'écriture est inclusive. Enfin, dernière spécificité mais non des moindres, cet album a été réalisé en concertation avec les familles homoparentales elles-mêmes pour qu'ils répondent au mieux à leurs besoins. Pourquoi avez-vous décidé d'inclure les parties plus éducatives et les citations que l'on peut lire au fil des pages ? Pour les couples lesbiens ou gays, le chemin de la parentalité est souvent long et semé d'embûches. Dans ces conditions, difficile de faire abstraction du contexte sociétal et législatif qui régit l'adoption ou la procréation. Aujourd'hui, en France, l'histoire d'une famille homoparentale est encore intrinsèquement liée aux luttes pour l'obtention des droits. Et il nous semblait délicat de séparer le privé et le politique. Même si vous vous en doutez, nous nous sommes cassés la tête sur la question. Ce côté militant peut gêner certaines personnes, mais nous le revendiquons, car le combat des parents est au final une partie de l'histoire de l'enfant. Le choix des citations s'inscrivait naturellement dans cet engagement. Vous avez auto-édité ton album Arc-en-Ciel. Comment avez-vous financé le projet ? C'était une question cruciale. Si nos ressources personnelles ne nous permettaient pas de financer le projet, l'indépendance éditoriale restait toutefois une priorité pour nous. Par exemple, vous ne trouverez pas l'album sur Amazon. Il nous a semblé possible de faire appel à un financement participatif dans la mesure où de nombreuses personnes étaient concernées. De plus, nous avions une bonne connaissance des réseaux LGBTIQI+. Après l'enquête, nous avons choisi Zest, plateforme émanant de la Banque coopérative de la Nef, qui soutient des projets éthiques et solidaires dans lesquels nous nous retrouvions. Nous avons été bien accompagnés tout au long du financement, si bien que nous avons atteint 92% de notre objectif en 5 semaines. Nous étions enchantés et tellement soulagés de pouvoir payer l'imprimeur, qui est français. Nous y tenions. Eh bien aujourd'hui, vous pouvez trouver ton album Arc-en-Ciel sur le site https://tonalbumarc-en-ciel tonalbumarc-en-ciel.fr. Voilà, et il est pas cher et il est très joli. On le sait parce que on l'a, nous, à Quasar. Bien, maintenant, eh ben on va écouter une première musique. Je suis toute seule, il faut que je boive une fois de temps en temps. Oshi, vous connaissez sans doute Oshi, cette jeune femme qui, passionnée de culture japonaise, a choisi comme nom de scène Oshi, ce qui signifie étoile. Elle a été sélectionnée pour The Voice. Elle a même été repérée par quelqu'un du casting de The Voice, mais elle a quitté l'aventure lorsque la production a voulu lui imposer une chanson qu'elle ne voulait pas chanter. Alors elle chante ses chansons comme elle en a envie. Mais laissez-moi d'abord vous parler, vous dire un peu, vous citer d'ailleurs en fait, ce qu'elle a dit à propos de la chanson qui va suivre, Amour Censure. Je cite Oshi. Après la tournée, à la fin de l'écriture de mon deuxième album, je suis partie quelques jours avec mon ami Marc Veld, en discutant de la vie comme on a l'habitude de le faire avec les gens que l'on aime. Cette chanson est née. Elle a vite pris sa place dans un album qui ne doit paraître qu'en 2020. Mais les événements du 6 octobre contre la PMA m'ont rappelé à quel point l'amour universel, qu'on croit toujours acquis, est remis en question par différents mouvements, notamment la Manif pour tous, qui continue d'agir semaine après semaine. Je m'y suis moi-même rendue pour défendre l'idée que l'amour ne mérite ni jugement ni censure, puisqu'il se doit d'être avant tout sincère. Il y a 6 ans, je me faisais moi aussi agresser devant chez moi par une personne qui considérait que sa vision de l'amour était plus juste et plus adéquate que la mienne. Depuis, d'autres se battent chaque jour pour que cela évolue, envers et contre les ignorants qui persistent. Je suis prête aujourd'hui à me joindre à leur combat et dire que moi aussi, je veux une famille à nourrir, qu'on s'en fout près de qui je vais m'endormir. J'ai décidé de le faire en musique. Et plutôt que prévu, pour où que vous soyez, vous puissiez vous souvenir que nos voix résonnent à l'unisson. Voici Amour Censure.
Au placard, mes sentiments, surtout ne rien dire. Et faire semblant, être à part, un peu penchant, au bout du navire, je coule doucement. Maman, désolée, je vais pas te mentir, c'est dur d'effacer tout ce qui m'attire, un peu dépassé par tous mes désirs. Papa, c'est vrai, j'ai poussé de travers, je suis une fleur qui se bat entre deux pierres, j'ai un cœur niqué par les bonnes manières. Est-ce qu'on va un jour en finir avec la haine et les injures? Est-ce que quelqu'un viendra leur dire qu'on s'aime et que c'est pas en pleurs? Pour pas que je pense à en finir, beaucoup m'ont donné de l'allure. Pour le meilleur et pour le pire, je prendrai sa main un jour, c'est sûr. Il n'y a pas d'amour sans sûr. qui je suis vraiment. Faire taire la rumeur, les mots sont tranchants. Se mentir à s'arracher les dents. Il cherche un docteur, on souffre sans être souffrant. Maman désolée, j'ai pris tes calmants. C'est pas que je voulais partir mais c'est violent. Je voulais juste dormir un peu plus longtemps. Papa t'inquiète, j'ai appris à courir. Moi aussi je veux une famille à nourrir. On s'en fout près de qui je vais m'endormir. Est-ce qu'on va un jour en finir avec la haine et les injures? Est-ce que quelqu'un viendra leur dire qu'on s'aime et que c'est pas impur? Pour pas que je pense à en finir, beaucoup m'ont donné de l'allure. Pour le meilleur et pour le pire, je prendrai ta main un jour c'est sûr. Est-ce qu'on va un jour en finir avec la haine et les injures? Est-ce que quelqu'un viendra leur dire qu'on s'aime et que c'est pas impur? Pour pas que je pense à en finir, beaucoup m'ont donné de l'allure. Pour le meilleur et pour le pire, je prendrai sa main un jour c'est sûr. Il n'y a pas d'amour sans sûr. Il n'y a que d'amour sincère.
Les enfants, c'est pour un homme et une femme.
Il n'y a pas d'amour sans sûr.
Ce n'est absolument pas pour des homosexuels.
Il n'y a que d'amour sincère.
Ils ont plus de gays à la télé, donc les gens se posent des questions sur eux-mêmes. Ça se propage en fait, comme une maladie qui se propage.
Et puis alors avec des chiens, puis avec des chats, des singes, et puis quoi après?
Alors disons que ça fait partie du mal parce que ça ne va pas dans le sens de l'amour qui a été donné par Dieu entre un homme et une femme.
Voilà. Bon, alors, maintenant, on va continuer un petit peu de news. Et puis ensuite, comme promis, Megan Rapinoe et Quasar. Quasar, pourquoi? Parce que l'Assemblée Générale de Quasar se tiendra le 25 janvier prochain, c'est dans pas longtemps, au local, au 15 rue de Jérusalem. Et vous en saurez plus tout à l'heure. News encore, après 3 mois d'attente, Facebook a enfin entamé la suppression de publicités trompeuses sur le traitement préventif contre la transmission du VIH, communément appelé PrEP, Pre-Exposure Prophylaxis. Le 9 décembre dernier, 68 associations LGBT+, avaient écrit une lettre ouverte à l'attention de Mark Zuckerberg. Il mettait le PDG de Facebook en garde contre les fausses informations propagées par des publicités sur la prophylaxie pré-exposition publiées sur le réseau social. Ces publicités avançaient notamment que la PrEP causerait des, je cite, « troubles rénaux ou des maladies des os ». D'après le Washington Post, ces posts ont été vus des millions de fois ces derniers mois. Ils ont fait leur effet. Ils ont fait peur aux patients, potentiellement ceux qui risquent le plus de contracter le VIH. Même si les responsables de la santé et les autorités de réglementation fédérale ont déclaré que le traitement était sûr. Facebook avait initialement refusé d'agir, mais après que des équipes de fact-checking aient conclu que les publicités étaient trompeuses, le Post a rapporté que les publications ont été supprimées. Peter Staley, le cofondateur de Prep for All, a déclaré « C'est gratifiant de voir l'un des vérificateurs des faits de Facebook soutenir le consensus écrasant des groupes médicaux sur le sida. LGBTQ, que ces publicités sont trompeuses. Mais la question demeure, pourquoi Facebook encaisse-t-il de l'argent pour des publicités qui contribuent à la propagation du VIH, ajoute-t-il. Le site de fact-checking Health Feedback a délibéré à ce sujet en juillet. Il explique que ce type d'annonce sur les réseaux sociaux exagère les risques pour ceux qui prennent Truvada à titre préventif. De plus, il ignore le fait que les avantages pour la santé de la prise de Truvada pour la prévention et le traitement du VIH peuvent largement l'emporter sur les risques. En France, le traitement préventif est disponible sous forme de médicaments de marque Truvada ou en générique. Voilà. Bon. Alors, encore un petit peu de prep. Bah oui, parce que donc Instagram a refusé une campagne sur le traitement préventif à un centre de santé communautaire à New York. Décidément, Mark Zuckerberg, qu'est-ce qu'il veut exactement ? Donc, à New York, Instagram, la propriété de Facebook, a interdit les publicités pour sensibiliser à la PrEP. Selon le site Vice, la plateforme a expliqué au centre de santé communautaire Apicha, fournissant les services médicaux dans la ville, qu'il n'était pas autorisé à diffuser des publicités sur les questions sociales, les élections ou la politique. Marc, pourquoi tu fais ça ? Soyons sérieux. Alors, au Brésil, le Brésil, vous avez sûrement entendu parler du Jésus gay, non ? Enfin, un groupe d'humoristes a donc, ils ont dépeint Jésus comme en homme gay. Bon, ça peut faire rire ou pas, mais ça mérite quand même pas des cocktails Molotov, et pourtant si. La police de Rio de Janeiro a annoncé le 31 décembre avoir identifié un suspect dans l'attentat au cocktail Molotov perpétré contre le siège d'un collectif d'humoristes brésiliens ayant dépeint Jésus en homme gay, sans être toutefois parvenu à l'arrêter. Identifié grâce à une caméra de surveillance qui l'a filmé sans cagoule quand il quittait les lieux de l'attaque. Eduardo Fauzi Richard Serkis, un homme au casier judiciaire déjà bien fourni, est considéré comme fugitif, a indiqué le commissaire chargé de l'enquête lors d'une conférence de presse. Nous avons analysé toutes les images montrant l'arrivée et la fuite des auteurs de l'attentat et nous avons identifié des suspects au visage découvert. L'attaque a eu lieu le 24 décembre au siège de la société de production du collectif Porta dos Fundos et n'a pas fait de blessés. Lors d'une perquisition menée au domicile du suspect, les policiers ont saisi des armes à feu factices, des machettes, 119 000 réals en espèces, environ 26 000 euros, des ouvrages sur l'islam, le christianisme ainsi qu'un exemplaire du Coran. Et documenté. Le commissaire a souligné qu'il était trop tôt pour déterminer les motivations de l'attentat et s'il s'agit d'un groupe isolé ou d'une association, ou si une association est impliquée. Eduardo Fauzi Richard Serkis avait déjà été arrêté en 2013 pour avoir agressé d'un coup de poing Alex Costa, secrétaire à la sécurité de l'État de Rio. Son casier judiciaire contient une vingtaine de condamnations pour menaces ou agressions. Mercredi, une vidéo circulant sur les réseaux sociaux montrait trois personnes revendiquant l'attentat perpétré, selon elles, pour réagir à une attaque directe contre la foi du peuple brésilien. Ces individus qui réclamaient du mouvement, qui se réclamaient du mouvement intégraliste, courant d'extrême droite apparu au Brésil dans les années 1930. Le Front intégraliste des Brésiliens, FIB, a néanmoins nié toute implication et expliqué dans un communiqué ne pas connaître les auteurs de la vidéo. La première tentation du Christ, vidéo de 46 minutes du collectif d'humoristes Porta dos Fundos, a été mise en ligne par Netflix le 3 décembre et est présentée comme un programme spécial de Noël. Voilà. Alors, une petite dernière news. Voyons, ça y est, je la retrouve plus. Ah là 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 là, ce que c'est que d'être toute seule. Hop. Pouf. Alors, allons-y. Voilà. Alors, Suzy Solidor, Julia Armanet. Qui sont-ce ? Alors, les plus âgés d'entre vous, Suzy Solidor, ils se souviendront peut-être. Enfin, il faut vraiment qu'ils soient très âgés. Eh bien, en fait, ces femmes ont fait quelque chose de qu'on imagine plus ou moins. Elles ont déjoué la censure au nom de la poésie afin de s'adresser aux seuls initiés. Sappho et ses abondamment fredonné à demi-mot. Léa Logiter et Pauline Paris nous révèlent avec une grande érudition les dessous lesbiens de la chanson dans un ouvrage absolument passionnant. Les éditions 9e, publie en cette fin d'année Les Dessous lesbiens de la chanson. Un ouvrage, somme, qui revient sur près d'un siècle de chansons lesbiennes, ou plutôt crypto-lesbiennes. Car pour déjouer la censure, au nom de la poésie ou encore afin de s'adresser aux seuls initiés, Sappho s'est abondamment donc fredonné à demi-mot. Il n'est pas trop tard pour glisser un énième cadeau sous le sapin. Bah maintenant, c'est un petit peu tard, mais pour la Saint-Valentin par exemple, pourquoi pas? Ou même après tout pour l'Épiphanie, avec la galette. De toute façon, à n'importe quel moment, ce livre est tout à fait cadeauesque. Voilà, pour tirer les rênes par exemple, voilà. Et offrir à l'heureux élu un petit bijou lesbien qui ravira les oreilles et l'esprit. Cet ouvrage, composé à quatre mains par Léo Lotguiter et Pauline Paris, est-il illustré avec maestria par Julie Fedel, est véritablement un de ravissement. Un répertoire de 41 chansons décryptées, leurs textes et leur réception, avec érudition par les interprètes elles-mêmes, ou des fines connaisseuses de celle-ci. Juliette, Monocle et Col d'Ur, Brigitte, Fontaine, Elvire, Adrienne Poli, Vas-y, viens, Léonie Pernet, qui a repris India Song de Jeanne Moreau, mais aussi Anne Poli, qui nous parle de Stéphanie de Monaco comme un ouragan, Anne Delabre à propos d'Edith Piaf, quand même, Adrien Nasselli sur Mylène Farmer, Maman à tort, Daniel Cottreau, évidemment Catherine Lara, autonome, elle qui fit un timide coming out sur les ondes gays avant d'en faire un magistral chez Michel Denisot jusqu'à la question « Que préférez-vous chez un homme ?» Lara répondit « Sa femme, nous ne l'avons pas oublié pour nous qui l'avons vue. » Sous-entendu, livre divisé en quatre grands motifs. Quand le portrait devient miroir, quand les amours interdites tombent le masque, quand le genre s'en mêle et quand la solitude ouvre la porte de l'indépendance. Pour raconter un siècle de chansons qui regorgent de sous-entendus, de sous-textes et de références qui font sens pour la communauté lesbienne. Et pour couronner le tout, la playlist est disponible dans son intégralité sur la plateforme en ligne Deezer, en scannant un QR code depuis son smartphone. On est gâté. Alors, les deux autrices expriment leur démarche et commentent les chansons vidéo à l'appui de Damia à Suzy Solidor, Brigitte Fontaine ou encore Juliette Armarnet. Enfin voilà, donc voilà, finissons donc joyeusement sur un livre. Alors maintenant, je vais voir où on est. Diffusion.
Pour nous tous.
On pourrait bosser ensemble.
Merci.
Pourquoi sommes-nous ennemis?
Alors, vous êtes bien sur Radio G, Angers 101.5 FM. Veuillez me pardonner ce blanc. Voilà, je n'aurais pu retrouver mes affaires. Hop. Laissez-moi vous parler donc de Megan Rapinoe. Voilà, j'ai retrouvé mes papiers. Megan Rapinoe, alors, où est-ce que je m'en étais? J'étais arrêtée la dernière fois dans ce feuilleton. Enfin, feuilleton créé maintenant. Ah oui, Megan, souvenez-vous, Megan et sa sœur Rachael s'étaient dit toutes les deux, que ce sont de vraies jumelles, qu'elles ont fini par le dire en même temps. Il leur a fallu du courage pour annoncer la nouvelle à leurs parents. Pour annoncer la nouvelle à leurs parents, donc. Excusez-moi, j'ai un problème. Non, ben ça va. Hop, pour annoncer la nouvelle à leurs parents. Qui admettent avoir eu besoin de temps pour l'intégrer et l'accepter. et qui finalement s'étaient inquiétés pour leur fille qui avait déjà des carrières sportives et se sont inquiétés eux principalement à propos des sponsors, à propos de ce qu'elle allait devenir. Elles avaient peur que le coming out n'affecte sa carrière et ses contrats de sponsoring. Mais, ça n'a rien changé, parce que de toute façon, Megan Rapinoe est une battante. À l'époque, donc, il n'était pas encore question de Coupe du Monde, d'équipe nationale ou de JO pour Denise et Jim, les parents. Simplement de décrocher une bourse d'études, ce qui était plus important. Mais le destin de Megan allait prendre une autre tournure à Elk Grove, où les jumelles Rapinoe ont rencontré un beau gaillard, muscles saillants, chapeau de cow-boy vissé sur la tête, Danny Cruz, qui les a entraînées. Ils savaient déjà qu'elles étaient bien au-dessus du lot. Donc avec elles, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais l'équipe est passée du 147e rang national au premier. Elles ont fini par jouer, ces gamines du Pride Elk Grove, se sont invitées chez les grandes en Women's Premier League Soccer League, quand même, hein, de le plus haut niveau de la compétition de 2003-2009, avant la réapparition des ligues pro. De riches parents ont payé nos frais d'entrée, quelque chose comme $5,000, précise Cruz. On a battu les championnes en titre dès notre premier match. Tout le monde était par terre. Rendez-vous compte, on a terminé 4e sur 12 avec les Under 16, les moins de 16 ans, alors que nos adversaires étaient des adultes, pour certaines des internationales déjà. Le Pride, quel joli nom pour une équipe de foot. Le Pride jouera 3 saisons dans cette Women's Premier League avant que les Rapinoe snobent les facs les plus réputées du pays pour poser leurs valises à Portland en 2005. Donc, dans cette mecque du foot où son visage s'affiche partout, Megan a reçu sa première convocation chez les A à 21 ans. Ici qu'elle a connu ses premières galères de joueur avec 2 ruptures des ligaments croisés du genou gauche coup sur coup, comme sa sœur. Et ici qu'elle a commencé à se forger une conscience politique. On était en 2008, en pleine campagne de Barack Obama. C'est la première fois que j'ai vu Meghan lire autant, s'informer et se soucier de ceux qui la représentaient, se souvient Rachel, sa sœur jumelle, qui est retournée s'installer à Portland après qu'une énième blessure l'a découragée de faire carrière chez les pros. Cette élection a été un tournant pour beaucoup de gens. 8 ans plus tard, la révolte silencieuse de Kaepernick agira comme une révélation pour Rapinoe. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Kaepernick est un joueur de football américain qui a mis un genou par terre pendant l'hymne national. Oui, c'est un pro du football américain. Il a mis un genou à terre pendant l'hymne national pour montrer sa désapprobation envers les violences faites aux jeunes noirs, tout particulièrement. Il a été énormément décrié et ça s'est très bien passé pour certains et très très mal pour d'autres. Donc, cette révélation faite à Megan Rapinoe la convaincra de protester contre cette violence insensée pour dénoncer les contradictions d'un pays qu'elle chérit autant qu'il lui fait honte. « J'ai choisi de poser un genou au sol parce qu'à tout juste 3 km de notre hôtel à Columbus, la veille de notre match contre la Thaïlande, un garçon de 13 ans nommé Tyre King a été tué par balle par un officier de police », écrira-t-elle pour s'expliquer. « J'ai choisi de poser un genou au sol simplement parce que je ne peux supporter le sentiment d'oppression que ce pays fait subir à ses propres concitoyens. » J'ai choisi de poser un genou au sol parce que, comme l'a écrit la poétesse juive Emma Lazarus, jusqu'à ce que nous soyons tous libres, aucun d'entre nous ne sera vraiment libre. Il fallait de l'audace pour être la première athlète, qui plus est blanche et homosexuelle, à imiter le quarterback des 49ers. Encore plus quand on sait la tempête qui s'est abattue sur lui. Au moment des faits, Rachel était en vacances dans les Alpes suisses, complètement déconnectée. Elle se souvient avoir eu un choc en apprenant la nouvelle, car Meghan ne l'avait pas prévenue, pas plus qu'elle n'avait pris le temps d'appeler ses parents. Aucun d'entre eux n'a jamais douté qu'elle avait les meilleures intentions et qu'elle était du bon côté de l'histoire. Même son père, qui a pourtant voté Trump quelques semaines plus tard et maintient qu'il n'avait pas d'autre choix, qu'on soit d'accord ou non avec tout ce qu'elle dit, elle a été jusqu'à mettre sa carrière en péril pour faire entendre sa voix, applaudit Jim. Un homme de peu de mots, au trait tiré par une vie de labeur. Tout aurait pu s'arrêter là, mais elle s'est pas démontée et je suis fière d'elle pour ça. 3 ans plus tard, la Fédération américaine impose désormais à ses internationaux de se tenir debout pendant l'hymne, sous peine de sanctions. Une décision lâche et rétrograde que Rapinoe respecte à sa manière. Les mains dans le dos et le visage fermé, silencieuse. Denise et Jim, eux, continuent de recevoir des lettres d'insultes, sans parler des coups de fil menaçants et des regards insistants au restaurant. Oui, parce que ses parents travaillent dans un resto. Quant à Rachel, si les mails haineux ont arrêté de déferler sur la boîte de Rapinoe SC, Soccer Club, l'entreprise que les jumelles ont lancée ensemble, les inscriptions à leur stage pour les 7-18 ans et les membres et les ventes de leur ligue de vêtements ont durement pâti de la polémique. Avec le recul, ses proches auraient aimé qu'elle soit moins radicale dans sa façon d'appréhender les choses, mais ils sont fiers de la voir se battre pour ce qu'elle croit juste. Il y aura toujours des détracteurs, des gens pour faire de la protestation ce qu'elle, de sa protestation ce qu'elle n'est pas, insiste Rachel. Pour qui partage son temps entre ses activités d'entrepreneur, elle s'est aussi lancée dans la commercialisation de produits à base de cannabidiol à destination des sportifs, et ses services d'entraîneur adjointe, bénévole des Pilots, l'équipe dont elle et sa sœur ont défendu les couleurs à la fac. Mais ce que je respecte le plus chez elle, c'est qu'elle nous force à nous regarder dans la glace et nous poser les bonnes questions. Ça a été dur pour ma famille, mais elle nous a rendus meilleurs et plus forts. Et elle en est ressortie changée à jamais. Pour comprendre d'où l'insoumise Rapinoe tire la force qui la caractérise aujourd'hui, il faut à nouveau se plonger dans son enfance, avant que ses parents ne soient contraints de vendre leur maison à Palo Cedro, une commune d'à peine plus de 1000 habitants, dans laquelle Meghan a grandi pendant 13 ans en face d'une église. Les enfants passaient leur temps dehors avec leurs amis. Ils montaient sur leur vélo et les rejoignaient pour jouer au foot, au baseball ou pêcher au ruisseau. C'était le temps de l'insouciance, celui où Meghan, l'hyperactive, faisait tout pour ressembler à son frère, Brian, de 5 ans son aîné, jusqu'à se couper les cheveux. Elle voulait être un garçon, se souvient Denise, réprimant ses larmes. Elle voulait être lui. À l'époque, il n'y avait pas d'équipe de filles dans les environs. C'est Brian qui a initié les jumelles au foot, notre foot, avant qu'elles ne fassent leurs preuves aux côtés de garçons et ne tracent leur route jusqu'au monde professionnel. Mais le grand frère n'a jamais vu jouer Meghan, du moins pas en personne. À 39 ans, il a passé plus de la moitié de sa vie derrière les barreaux. Il y a d'abord eu la drogue, une arrestation à l'école, la descente aux enfers, vol de voiture, etc. Un gang de super massistes blancs, pour survivre, dit-il, les tatouages, une croix gammée, 3 agressions sur d'autres détenus, etc., etc. Et puis une prise de conscience, enfin. Peu de temps après les premières prises de position politique de sa sœur, comme un déclic. Aujourd'hui, c'est lui qui veut ressembler à Meghan. Brian n'a plus touché aux drogues depuis près de 2 ans, a fait recouvrir ses tatouages, purgé sa dernière année de peine dans un centre de réinsertion de San Diego, où il a suivi chacun des matchs de sa sœur à la Coupe du Monde, plus intensément les uns que les autres. L'un de ses buts l'a fait entrer dans une telle transe, raconte son père, que ses compagnons réunis à l'étage du dessous pour une remise de diplôme ont cru qu'il était en train de se suicider. Jim se souvient avec émotion du temps où son fils était obligé de grimper sur une pile de livres pour apercevoir la télé au bout du couloir derrière la porte de sa cellule. En 2011, l'année de la première Coupe du Monde de Pino et de son centre mémorial pour Abby Wambach à la 122e minute d'un quart de finale irrespirable contre le Brésil, 2-2 après prolongation, 5 tirs au but à 3 le 10 juillet. Pour Brian, le chemin de la rédemption était alors encore loin, mais il n'a jamais semblé aussi proche aujourd'hui. À la rentrée cet automne, le grand frère fera même ses premiers pas sur les bancs de l'université, peut-être pour étudier la psychologie. Il va avoir un impact, s'enthousiasme sa mère, aider les autres. Au fond, faire comme sa sœur. Megan a été une immense source d'inspiration pour lui. Elle lui a donné beaucoup de force, témoigne Rachel. Mais je crois que la déception et la douleur qu'elle a ressentie quand il a commencé à se droguer et faire des va-et-vient en prison a en quelque sorte allumé cette flamme en elle, cette volonté d'être la meilleure possible pour surmonter ses épreuves. À 34 ans, rien ni personne ne semble désormais pouvoir faire vaciller Rapinoe. Pas même Trump himself, un président sexiste, misogyne et raciste qu'elle s'est juré de combattre sans péril, au risque de se brouiller avec son père, qui n'est pas prêt d'oublier le premier réveillon de Noël post-élection, on s'en doute, le vin aidant. Les débats se sont vraiment envenimés quand tout le monde est parti, se remémore Denise, qui a l'habitude de réunir la famille à Reading pour un dîner italien. J'ai préféré aller me coucher, j'avais une migraine. Meghan et Rachel étaient très en colère contre leur père. Depuis, on évite de parler politique, sourit Jim. Elles ont leur opinion, j'ai la mienne. Mais toute cette histoire de tweet et la façon dont les choses ont été sorties de leur contexte m'ont dérangé. Le paternel fait référence à l'interview tournée avant le Mondial 2019, qui a refait surface à 3 jours du quart contre la France, 2-1 le 28 juin, celle où sa fille répète qu'elle n'ira pas à la putain de Maison Blanche. Je citais. Le cirque médiatique qui a suivi aurait pu la fragiliser, mais Ali Lang, qui la côtoie en club comme en sélection, décrit une Rapinoe impassible comme indifférente à la guéguerre engagée par Trump sur Twitter. Il n'y a qu'elle pour réussir un tel match. Elle a inscrit à doublé. Dans un moment pareil, admire la milieu américaine. On dirait qu'elle est née pour ces moments. Plus les regards sont tournés vers elle, plus elle se nourrit de cette pression. Et puis, le simple fait qu'elle attire l'attention du président en dit long sur l'impact qu'elle a. Ses prises de position, son charisme naturel et ses discours fédérateurs ont fait d'elle la nouvelle star du foot féminin, peut-être plus encore que ses buts, 6 à la dernière Coupe du Monde, et sa ribambelle de trophées. Et son aura dépasse désormais largement le simple cadre du sport. À peine rentrée, elle a accepté de raconter son histoire dans un livre qui devrait sortir à l'automne de cette année. Son club croule sous les demandes d'interview, 120 dès le lendemain de la finale. Les talk-shows à la mode se l'arrachent et la politique lui ouvre grand les bras. Avant de se retirer de la primaire démocrate et de renoncer à l'élection présidentielle de l'année prochaine, le gouverneur de l'État de Washington, Jay Inslee, avait annoncé vouloir faire d'elle sa secrétaire d'État, l'équivalent de notre ministre des Affaires étrangères, s'il venait à l'emporter. Pour répondre à la demande populaire, l'Institut de sondage américain Public Policy Polling a même tranché sur un improbable duel Rapinoe-Trump. Résultat, un très léger avantage pour la première, 42% contre 41% pour son rival républicain et 17% d'indécis. Meghan est devenue plus qu'une simple footballeur et c'est elle qui l'a choisie. Mais rien ou presque n'a changé à Tacoma, cette cité portuaire du sud de Seattle dans laquelle son équipe du Reign FC, Football Club, donc, a choisi de s'établir au mois de janvier dernier, l'année dernière, après 4 ans à Emerald City. À vrai dire, si ce n'était pour les 2 panneaux publicitaires plantés au bord de l'autoroute, on ne parierait pas $1 que le ballon d'or du mondial joue ici. Au mieux, le Reign se bat pour exister devant 4 à 5 000 personnes à peine depuis le retour triomphal de sa championne dans un stade de baseball qu'il partage avec l'équipe de ligue mineure du coin, les Rainiers, et une autre équipe de football masculine de 2e division, le Defiance. Avec un match tous les 2 ou 3 jours, sans parler des concerts, Pinoe et ses coéquipières n'ont d'autre choix que de s'entraîner sur la pelouse synthétique du lycée voisin, où les lignes rouges, bleues, blanches et jaunes, on y pratique aussi le football américain et la crosse, s'entrelacent dans un joyeux bordel. Telle est la réalité du soccer féminin nord-américain et le quotidien de la diva Rapinoe qui roule en Tesla, mais se change dans une cabane en bois et soigne un tendon d'Achille douloureux dans une ancienne salle de classe sombre et exiguë. À l'avoir quitté la pelouse du Chinese Stadium, sans un regard pour les centaines d'enfants qui criaient son nom après la défaite contre l'Utah 1-3 le 11 août, quand nombre de ses coéquipières signaient des autographes depuis plus d'une demi-heure, on a pu s'empêcher de penser que la championne du monde, comme insaisissable derrière ses lunettes noires, n'était plus à sa place dans ce décor bucolique presque confidentiel. À sa décharge,
J'en suis bon. Excusez-moi, il y a mon ordinateur qui s'éteint avec mon texte qui est dessus. À sa décharge, voilà, j'ai perdu. Bravo. À sa décharge, sa sœur rappelle qu'elle est toujours blessée et qu'elle a à peine eu le temps de respirer depuis son retour de la Coupe du Monde. C'est d'autant plus vrai qu'elle était attendue à New York le lendemain, à l'autre bout du pays, pour une série de réunions avec la Fédé américaine au sujet de l'égalité des salaires et des conditions de travail. Un combat qu'elle a promis de mener jusqu'à la tombe, pour elle, son équipe et pour tout le monde. Hommes, femmes, immigrés, citoyens américains, personnes de couleur, peu importe. La médiation a échoué et le procès intenté par les championnes du monde aura donc bien lieu, vraisemblablement en mai 2020, avec Rapinoe en première ligne. Évidemment. Sacrée bonne femme. Alors, maintenant, après tous ces combats variés et divers, voici la fin de l'émission sur un sujet important, même très important. Le samedi 25 janvier prochain, donc l'Assemblée Générale, l'AG annuelle de Quasar, aura lieu à notre nouvelle adresse, 15 rue de Jérusalem, à 16h. Alors, juste petit rappel pour les gens qui ne font pas forcément tous partie d'une association, mais une AG. C'est le moment pour n'importe quelle association de présenter le bilan de l'année écoulée, présenter les objectifs de l'année à venir, procéder à l'élection de son conseil d'administration, le CA, et de son bureau. Pour les adhérents et adhérentes, c'est aussi le moment d'exercer leur droit de vote, de discuter avec les membres du CA, les personnes référentes, les membres des différents groupes de l'association, poser une ou des questions, émettre des propositions, s'investir, si le cœur vous en dit. Pour ceux et celles qui ne connaîtraient de Quasar que cette émission de radio Quasar on the Air, ce qui est déjà très bien et remplit le cœur d'enthousiasme, je n'en doute pas, laissez-moi vous présenter la base de Quasar. Quasar est le centre lesbien, gay, bi, trans, intersexe, plus, d'Angers, et a été créé en octobre 1993. L'action de Quasar a trois grands objectifs. Accueillir, soutenir, créer du lien social, conquérir, défendre les droits LGBT, informer et éduquer les gens. Premier point, l'accueil. Alors, qui peut venir ? Les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres, intersexes, queer, les femmes, les butch, les bears, les cisgenres, les agenres, les binaires, les non-binaires, les fluides et leur entourage. Pour quelles raisons ? Si l'on ressent le besoin de se retrouver avec ses pairs, si l'on a une question ou une inquiétude. Quoi par exemple ? On se questionne sur son orientation sexuelle ou son identité de genre. On se demande comment agir vis-à-vis de son entourage. On a envie d'échanger sur les questions que l'on se pose. On a simplement besoin de passer un moment parmi des gens dans un environnement sans jugement, ni rejet, ni crainte. Quel type d'accueil Quasar propose-t-elle ? L'accueil peut être individuel, sur rendez-vous, ou lors des permanences, tous les samedis de l'année, de 17h à 19h. De plus, si la question ou le problème est pointu ou réclame l'intervention d'une personne ou d'un organisme spécifique, nous pouvons aider à la mise en relation. Une personne ou un organisme spécifique, Kesako ? Eh bien, c'est un ou une référent-référente de Quasar, une autre association, un ou une professionnelle extérieure spécialisée, une administration. Notez que les personnes et assos font de même pour nous, car nous sommes en contact et où nous travaillons ensemble régulièrement. Quasar propose aussi des accueils spécifiques et des rencontres sans régularité définie. Consultez les réseaux sociaux, c'est facile, Quasar. Pour les 15-25 ans, et les femmes, par exemple. Et enfin, des temps de convivialité, de rencontres et d'échanges ouverts à toutes et à tous, comme la conviviale mensuelle, chaque troisième vendredi de chaque mois, 12 mois sur 12, où adhérents et non-adhérents peuvent venir munis d'une nourriture ou d'une boisson à partager selon ses moyens. Alors le second point, conquérir et défendre les droits LGBTI+. Quasar, depuis sa création, se bat pour la conquête et la défense des droits des personnes LGBT dans tous les domaines. Liberté individuelle et collective, famille, éducation, travail. En mobilisant et en mettant en œuvre tous les moyens légaux et démocratiques pour atteindre ce but. En cela, Quasar n'a pas agi seul, bien sûr, mais avec d'autres assos et des professionnels, souvent et toujours, grâce à la ténacité, la bonne volonté et la présence de bénévoles, dont certains sont présents depuis 1993, d'autres qui sont partis puis revenus, d'autres encore qui ont rejoint Quasar à la suite d'une action, d'une manifestation, d'une pride, en poussant la porte du local, tous âges, tous genres mêlés. Ainsi, depuis plus de 10 ans, Quasar soutient et accompagne des femmes et des hommes qui demandent l'asile en France parce qu'ils et elles sont persécutés dans leur pays à cause de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre. Quasar les accueille, leur apporte un soutien moral et les accompagne dans les procédures administratives et judiciaires que nécessite le dépôt d'un dossier de demande d'asile. Un instant. Donc, un autre groupe assure le soutien et l'accompagnement juridique des personnes victimes de discrimination ou d'agression à caractère homophobe ou transphobe. Ce pôle juridique de l'association, animé par les militants de Quasar qui ont une formation spécifique sur ces questions, assure cet accompagnement en lien avec des juristes et des avocats compétents dans ces domaines. Informer et éduquer les gens. Ça consiste en quoi ? Eh bien, en la réalisation d'interventions auprès de différents publics scolaires, étudiants, jeunes du service civique, travailleurs sociaux, pour informer sur toutes les questions liées à l'orientation sexuelle et l'identité de genre, et pour assurer, à travers ces interventions, une prévention contre l'homophobie. L'information et la prévention dans les domaines de la santé aussi, maladies sexuellement transmissibles, VIH, hépatite, mais aussi risques suicidaires, en partenariat bien entendu avec des institutions et les associations compétentes dans ces domaines. Puis, domaine culturel, la promotion des documents et des œuvres qui développent des thèmes relatifs à l'homosexualité, la bisexualité, la transidentité. Mise à disposition au local de l'association d'une bibliothèque, DVD-Tech, organisation de conférences, ciné-débats, recherche historique, publication d'une newsletter numérique, visite de monuments, chasse au trésor, émission de radio bimensuelle que vous connaissez très bien. Organisation de la Pride d'Angers. Pourquoi est-ce un thème ? Eh bien parce que la cheville ouvrière de la Pride d'Angers, c'est Quasar. Chaque année, depuis 2000, il y a une Pride à Angers. Et c'est maintenant devenu un événement incontournable de la vie sociale angevine. Et ça reste avant tout une manifestation revendicative et solidaire, même si c'est bruyant, joyeux, musical et batoukadesque encore cette année sans doute. Cet événement, auquel s'associent diverses associations et organisations, nous permet d'agir simultanément dans la réalisation de nos 3 grands objectifs. En somme, Quasar, en accueillant, en informant et en aidant, lutte contre les groupes qui considèrent que l'homosexualité, la bisexualité et la transidentité sont contraires à la nature, à la morale, à la religion, à l'ordre public et ou à l'intérêt supérieur de l'enfant, leur grand leitmotiv. De nombreux mouvements, généralement conservateurs, souvent situés à droite et à l'extrême droite, mais pouvant aussi s'inscrire à gauche et à l'extrême gauche, ça dépend des parties du monde, s'opposent aux droits LGBT. Pour ces mouvements, égalité n'est pas identité. Et les revendications du mouvement LGBT représentent un danger pour la société dans la mesure où elles remettent en cause les normes sociales. Pour une partie de ses opposants, les demandes de ce qu'ils nomment le lobby LGBT s'inscrivent dans un agenda homosexuel qui viserait à prendre le contrôle sur la société pour mieux recruter de nouveaux membres, en particulier des enfants. Si l'une ou l'autre des affirmations ci-dessus vous sidère ou vous met en colère, ou si l'une ou l'autre de nos actions vous paraît digne d'intérêt, vous pouvez nous rejoindre, chacune et chacun, en fonction de vos choix, de vos possibilités et de vos savoir-faire. En adhérant à Quasar, vous soutiendrez les actions menées par l'association, en devenant bénévole, à l'occasion de manifestations organisées par Quasar, la Pride, des événements culturels ou festifs. En mettant votre savoir-faire au service de l'association, vous apporterez votre contribution aux actions menées par celle-ci. En militant à Quasar, vous participerez pleinement à la réalisation des objectifs de l'association. Alors venez à l'AG de Quasar, au local 15 rue de Jérusalem, samedi 25 janvier prochain, à 16h. Je vous dis au revoir. Ah oui, au fait, en plus, à la fin de l'AG, il y aura de quoi discuter en buvant un verre et en mangeant des akouskis. T'entends, non ? Je vous souhaite une excellente année et je vous laisse avec Thierry et Sons of Blues.